Bonjour, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous nous remettons devant toi afin que tu ouvres nos esprits et que nous puissions bien comprendre les mystères que tu veux nous révéler ce soir. Je sais, Seigneur, que pour plusieurs cela va être comme une révolution, mais je te prie, mon Dieu, que tu éclaires chacun par ton Saint-Esprit. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Et je te remercie d'avance, mon Dieu. Je crois de tout mon cœur que ceux qui sont venus pour écouter sur Internet vont comprendre ces choses, parce que leur cœur va être ouvert par l'action de ton esprit. Merci, Seigneur Dieu. Amen. On va faire une lecture dans Matthieu, au chapitre 16, verset 19. Matthieu 16... J'ai perdu la référence, Matthieu 16, 19, où il est dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est une parole qui a été donnée à Pierre. Ensuite, vous qui connaissez les Écritures, vous savez qu'elle a été donnée aux autres disciples, à tous ceux qui se disciplinent, à tous ceux qui veulent marcher correctement selon les ordonnances du Maître. Ce soir, je voudrais vous parler d'une révélation biblique qui a été méprisée il y a des siècles, rejetée, et ensuite elle a été ignorée pendant longtemps, pendant les siècles de ténèbres, et puis maintenant, elle est révélée de nouveau, elle est rétablie. Vous savez, selon Actes chapitre 3, qu'il y a un rétablissement de toute chose qui a lieu en ce moment. Je vous ai déjà enseigné sur ces choses. Et cette révélation biblique fait partie de la réserve d'huile que les vierges doivent acquérir pour être sages. Il nous faut cette réserve. Parce qu'au moment où le Seigneur viendra, si nous n'avons pas cette réserve, eh bien, nous resterons. Alors, je ne dis pas que ce que je vais vous dire là, c'est toute la réserve d'huile. Elle en fait partie, elle en est une partie. Mais je crois que c'est une des parties les plus importantes, et vous allez vite comprendre pourquoi. On va lire en Corinthiens 15, 41, 42, s'il vous plaît. Non, oui, en Corinthiens 15, 41, 42. Ah, mais non, ça n'existe pas. Donc c'est, oui, c'est, excusez-moi, je suis dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, 41, 42. Vous y êtes? Il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, et chaque étoile a même un éclat différent. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Sur cette terre, nous sommes dans ce que nous appelons la condition mortelle. Nous mourons et nous ressusciterons. Bon, certains d'entre nous seront enlevés sans voir la mort, selon 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Mais bon, quoi qu'il en soit, de l'autre côté du voile, eh bien, nous allons trouver 3 degrés différents de vie. Alors, je ne vais pas vous enseigner en profondeur ces choses, mais juste faire un tableau pour brosser la situation. Cet enseignement est caché dans la lecture qu'on vient de faire. Paul dit que ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ainsi en est-il. Il en est ainsi. Il est ainsi quoi? Il en est comment? Comment? C'est comment? Eh bien, comme il vient de l'écrire, il y a 3 éclats différents. Il y a celui du soleil, celui de la lune et celui des étoiles. Verset 41. Et nous savons par ailleurs que l'Église de Jésus-Christ est composée de vierges sages et de vierges folles, que certains seront enlevés pour participer en tant qu'épouses au repas des noces et que les autres resteront sur terre. Elles auront à souffrir la grande tribulation. L'épouse de Christ, elle est typifiée dans l'ancienne alliance par l'épouse de Joseph, hein, qui vivait en Égypte. Et quand les frères de Joseph sont venus, ben, l'épouse est restée au palais. Vous me suivez toujours. L'épouse a un statut privilégié. Par ailleurs, l'épouse est appelée la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse 21, 9, 10. Et il faut voir ces choses-là, autre est le terrestre, autre est le céleste, mais il y a des analogies et il faut avoir l'esprit de l'aigle. Hein. Vous savez que c'est l'aigle en ce moment qui gère la situation dans la véritable Église de Jésus-Christ, cet être qui est auprès du trône, il y en a quatre, et nous sommes en ce moment sous l'influence de celui qui a une tête d'aigle, c'est-à-dire un regard perçant qui voit tout de haut, qui voit, c'est l'esprit de prophétie. Et si vous n'avez pas cette influence, ça va être difficile pour vous de suivre. Alors pourquoi est-ce qu'elle est appelée ainsi? Elle est appelée la Nouvelle Jérusalem en mémoire de l'Ancienne Jérusalem. Si une nouvelle, c'est qu'il y en avait une autre. Et l'Ancienne Jérusalem était les prémices de l'épouse parfaite. Dieu savait qu'il y aurait une apostasie qui viendrait, mais il savait que, en toute chose, il y a toujours des prémices. Et l'Église naissante, qui était conforme à la volonté de Jésus-Christ, est donc appelée l'Ancienne Jérusalem, puisque maintenant, la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Vous me suivez? Alors, l'Ancienne Jérusalem est aussi l'épouse, avec la Nouvelle. Alors, la Nouvelle Jérusalem doit être comme l'Ancienne Jérusalem. Elle hérite du plus haut degré de gloire qu'on puisse atteindre après la vie qu'on a là dans la condition mortelle. Épouse de Christ, voilà, ça c'est le summum, c'est le plus haut degré de gloire. C'est, si vous voulez, comme l'apôtre Paul le dit, c'est l'éclat du soleil. Le soleil c'est Jésus, nous serons comme Jésus. Jésus, Dieu, ne va pas épouser autre chose qu'une déesse. Son épouse sera une déesse. Nous serons élevés à ce rang-là, nous qui aurons été fidèles jusqu'au bout. L'épouse de Christ est le corps qui appartient à Christ. Comme le corps d'une épouse appartient à son mari. Tandis, c'est l'épouse, c'est le corps de Christ, il en est la tête, il en est le chef. Ça veut dire que c'est nous sommes le corps qui lui appartient. Et ces deux s'épousent et forment une unité. J'aurai l'occasion de vous enseigner par ailleurs ce que sont les deux autres degrés de gloire, mais ce soir je voudrais vous parler du degré le plus élevé, celui qui a, pour reprendre l'écrit de Paul, l'éclat du soleil. Paul nous parle du plus haut degré de la vie éternelle, en le comparant à l'éclat du soleil, dans 1 Corinthiens 15, 41, 42, qu'on a lu au début. Mais il en parle aussi dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Je voudrais lire ça, 2 Corinthiens 12, 1, 4. 2 Corinthiens 12, 1, 4. Faut-il se vanter? Ce n'est pas utile. J'en viendrai pourtant aux visions, aux révélations reçues du Seigneur. Je sais qu'un fidèle du Christ, il parle de lui-même, voici 14 ans, a été emporté jusqu'au troisième ciel. Est-ce dans son corps? Je ne sais pas. Est-ce sans son corps? Je ne sais pas, etc., etc. Dieu le sait. Mais je sais que cet homme, dans cet état-là, est-ce que c'est dans son corps ou sans son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Cet homme-là a été emporté au paradis. Et il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne doit pas redire. Paul, c'est de lui-même qu'il parle de lui-même. Il a été enlevé au troisième ciel, verset 2. Et il dit que c'est le paradis, verset 4. Dans ce troisième ciel, il a vu, il a entendu des choses, des paroles ineffables qu'un homme ne doit pas redire. Il a touché au sacré, à ce qui n'est donc pas pour les profanes. Il est allé là où Dieu se tient dans sa création. Et c'est de là que descend la Nouvelle Jérusalem après la Grande Tribulation. Elle descend du ciel. Parce qu'elle a d'abord été enlevée, il y a eu les noces, et puis elle redescend après la Grande Tribulation. De là, et après le millénium, de là sort un fleuve limpide, le fleuve de la vie, limpide comme le cristal, c'est ce que nous disent les Écritures. Et ce fleuve de vie sort du trône de Dieu et de l'agneau. Ce trône est dans la ville, dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, l'épouse est comparée à une ville dans laquelle se trouve le trône de Dieu. Alors, suivez bien. La Nouvelle Jérusalem descend du ciel, du troisième ciel. Parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, Apocalypse 21, 2. Vous voyez comme c'est écrit de façon à ce que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Les autres comprennent rien. Elle descend du troisième ciel, du troisième degré de gloire sur la nouvelle terre, Apocalypse 21. Il y a donc une nouvelle terre. Et c'est sur cette nouvelle terre que s'exercera le gouvernement venant du trône qui est dans la nouvelle Jérusalem. L'épouse donc gouvernera, le trône est en elle. Le trône, ça représente le pouvoir, le pouvoir de gouverner. Et l'eau de la vie coule d'elle, parce qu'elle est élevée au rang de divinité. Elle est l'épouse de l'agneau, l'épouse de Dieu. Ils apporteront la gloire, donc qui ? Ben, on va voir. Et les honneurs des nations à l'époux et à l'épouse, Apocalypse 21, 26. Ceux qui vivront dans cet éclat semblable à l'éclat de la lune, c'est-à-dire ils seront sauvés, mais ils seront les habitants de la nouvelle terre, ils ne seront pas la nouvelle Jérusalem, ils ne seront pas l'épouse. Ils auront été jugés au trône blanc, et puis ils auront été trouvés dans le livre de vie, Apocalypse 21, 27, et ceux-là, qui seront les habitants de la nouvelle terre, pourront entrer et sortir, mais pas habiter la nouvelle Jérusalem. Parce que la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse, c'est un statut privilégié. Par exemple, mon épouse et moi, nous avons notre chambre, notre appartement dans le château, nous recevons des gens, mais il n'est pas question que ces gens vivent avec nous dans notre chambre. Alors, ils pourront croître et se multiplier sur la nouvelle terre et peupler la nouvelle terre. Et l'épouse de l'agneau, composée des êtres fidèles des sept âges de l'Église, vous savez que dans chaque âge de l'Église, il y a eu un petit reste qui était fidèle, ils seront unis ensemble pour former le corps qui est à Dieu, l'épouse. Alors, qu'est-ce que cet enseignement apporte? Vous allez me dire, mais ça m'apporte quoi, moi, dans mes problèmes de maladie, d'impôts, ou que sais-je, que ça m'apporte? Écoutez bien. Nous savons par la parabole des 10 vierges que nous avons à faire provision d'huile pour pouvoir entrer dans le troisième ciel. Que ceux qui n'auront pas cette réserve, ils seront à la porte, ils taperont, hein, c'est nous, je ne vous connais pas. Vous avez fait ce qui est injuste, vous n'avez pas fait ce qui est juste. Les choses sacrées sont restaurées maintenant. Il est important que vous preniez connaissance de ces choses. L'ange de Laodicée est venu montrer ce qu'un humain fidèle sera juste avant l'enlèvement. C'est-à-dire, il sera un humain avec la puissance divine qui se manifeste comme elle se manifestait au travers de l'homme Jésus. L'ange de l'Odyssée, le prophète que Dieu a envoyé à notre temps, a dit que cela ne durerait pas longtemps. Il a dit qu'il a vu cela comme dans une vision, mais qu'il ne peut pas dire si cela va durer 6 jours, 6 semaines ou 6 mois. L'épouse de Christ sur la terre, juste avant l'enlèvement, aura atteint un tel niveau de perfection qu'elle pourra faire les mêmes choses que Jésus fait d'une façon parfait, exerçant les 9 dons surnaturels d'une façon parfaite. Ce temps où l'épouse atteint sa perfection ne durera pas longtemps, dit-il. Elle sera la manifestation finale de la voix de l'archange que on trouve dans 1 Thessaloniciens 4:16. Oui, d'abord, il y a un signal qui est donné, c'est le prophète. Ensuite, il y a la voix de l'archange, c'est l'épouse qui se perfectionne et qui, une fois parfaite, se manifeste véritablement au monde. Et puis ensuite, il y a l'enlèvement au son de la trompette. Donc, c'est un processus. Mais pour atteindre cette perfection, le prophète nous a donné le chemin à suivre. Il dit dans 2 Pierre, nous dit de lire dans 2 Pierre 1, 5, 11. Alors, on peut le lire si vous voulez, vous le lirez chez vous. C'est là où l'apôtre dit, pour atteindre cette perfection, il faut ajouter à votre foi. Il ne suffit pas simplement d'avoir la foi qui guérit ou la foi qui... Non, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses Et l'apôtre, là, Pierre, nous explique toutes ces choses d'une façon magistrale. Tâchez de retrouver le texte, parce que je pense que ça vaut quand même la peine que je vous le lise. Alors, 2 Pierre 1, 5, 11. Enfin, vous lirez toute la... Il faut rajouter, n'est-ce pas, à la fois la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, etc., etc. Et puis il dit, mais celui qui en est dépourvu, qui est dépourvu de ces choses, est myope au point d'être aveugle, c'est-à-dire il ne voit plus rien, il oublie qu'il était purifié de ses péchés d'autrefois. Il dit, c'est pourquoi, frère, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. Dieu nous a choisis, nous a appelés, nous sommes des bénéficiaires de ce choix et de cet appel. Il dit, mais nous devons le confirmer en redoublant d'efforts. Frère, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. En agissant de la sorte, vous ne risquerez pas de tomber. C'est ainsi que vous sera généreusement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La nouvelle Jérusalem. Le royaume, c'est là où est le trône. C'est ainsi, c'est seulement comme ça. C'est en rajoutant ces choses à votre foi, la vertu, la connaissance, etc. Vous lirez 2 Pierre 1, 5, 11. Comment pouvons-nous recevoir la liberté, le pouvoir d'entrer dans le troisième ciel en pratiquant ces efforts dont Pierre nous parle ici? Mais il y a plus. Le mariage terrestre est l'image du mariage céleste. Ceux qui auront accès au troisième ciel devront être un, véritablement un, uni, et le mariage tel qu'il est proposé et enseigné et pratiqué ici-bas n'est pas le mariage que Dieu veut. Il doit être le mariage, une unité sacrée éternelle, et non pas jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pour obtenir le droit d'épouse de l'agneau, il faut que toutes nos alliances soient éternelles ici-bas. Et c'est ça le mystère dont Paul parle dans Éphésiens 5, 31, 32. Éphésiens 5, 31, 32. Je vais lire ce texte. Éphésiens 5, 31, 32. Alors il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Deux points, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Il parle de quoi là? Pensez-y. Là, il cite un texte de Genèse 2, 24 qui nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair, d'accord? Ève, elle est tirée du corps d'Adam, elle est vraiment os de ses os, chair de sa chair, mais elle était aussi son épouse, unie à lui dans une relation qui faisait des deux une seule chair. On trouve ça aussi dans Matthieu 19, 5, 6. Ève était donc la fille d'Adam, puisqu'elle est sortie de lui, et puis elle est devenue son épouse. L'épouse de Jésus est sa fille, née de lui. Et elle est aussi son épouse. Mais ce qui est né de Dieu ne peut pas connaître la division. Et c'est pourquoi le mariage est sacré. Quand un homme épouse une femme, c'est pour l'éternité. Car c'est juste l'image de la réalité qui est produite sur terre. C'est juste sur terre l'image de ce qui sera dans l'éternité. Dieu ne séparera pas ce qui est uni par lui. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Le serviteur de Dieu qui est revêtu de la prêtrise réelle et confirmée pas qu'il s'imagine qu'il a la prêtrise, mais qu'il peut véritablement agir au nom du Seigneur Jésus-Christ, peut exercer son autorité de scellement et déclarer un homme et une femme mariés pour l'éternité. Et si ces choses-là, si ces gens-là continuent à vivre dignement, eh bien, ils pourront être ensemble, liés pendant l'éternité, et leurs enfants leur sont scellés. Voyez ce que Dieu rétablit. Le mariage, c'est une institution divine, donc éternelle. Et tout ce qu'une personne... Quand une personne a véritablement la prêtrise, elle lit sur la terre, et ce qu'elle lit sur la terre est lié au ciel. Matthieu 16, 19. C'est le pouvoir de scellement. Alors, nous allons sceller des mariages dès le printemps. Nous sommes en train de préparer nos cœurs dans la communauté pour cela. Et je vous enseigne, à vous qui écoutez sur Internet, afin que vous preniez conscience de ces choses. Le but, c'est de créer des familles éternelles. C'est-à-dire le genre de famille que Dieu désire pour les siens. Éternel. Pour ici-bas et pour l'éternité. Ce scellement est d'une très haute importance. C'est un acte légal qui scelle la famille. La famille. Évidemment, ça ne veut pas dire que parce que vous avez scellé votre mariage pour l'éternité, vous pouvez vous comporter n'importe comment et que le scellement vous sauvera, vous et votre conjoint et vos enfants. Non. C'est pas ça. Il faut évidemment suivre les ordonnances et les lois bibliques avec amour et foi. C'est pour ceux qui sont déjà engagés à suivre les ordonnances et les lois bibliques avec amour et avec foi que le mariage peut devenir, peut être scellé. On s'amuse pas, on n'est pas en train de jouer. On n'est pas en train de dire que parce que on va faire une cérémonie de scellement de mariage, ça va sauver toute votre famille. Et que c'est ça qui sauve. Non, c'est Jésus qui sauve. Mais dans le plan du salut, il y a cela. C'est un grand mystère. Nous sommes sur la terre, et sur la terre, nous pouvons contracter des alliances sacrées, des promesses sacrées, avec Dieu, et avec les gens, avec les autres. Avec l'autorité de la prêtrise qui nous a été donnée, nous pouvons donc sceller des familles. Cette alliance permet qu'un mari et sa femme soient scellés pour l'éternité, mariés pour l'éternité, et que leurs enfants soient scellés à eux. Ça signifie que si nous respectons nos alliances, nos promesses faites avec le Seigneur, et aussi faites les uns avec les autres, la mort ne pourra pas nous séparer. Vous voulez, vous, que la mort vous sépare. C'est comme ça que vous aimez votre femme. C'est comme ça que vous aimez vos enfants. Vous voulez, c'est comme ça que vous aimez votre mari. Mes frères et sœurs, Paul dit que c'est un mystère, on l'a lu. Mais ça doit être connu de ceux qui vont être enlevés. Écoutez bien ça. Nous sommes sur la terre et beaucoup de ceux qui ont vécu sur la terre sont maintenant morts. Ces gens-là ne peuvent pas parvenir à la perfection sans nous. C'est écrit dans Hébreux 11, 40. Qui peut expliquer ça? Expliquez-moi ce que ça veut dire. Ils ne peuvent pas venir à la perfection sans nous. C'est-à-dire que nous avons quelque chose à faire pour leur perfection. Ça reste un mystère pour ceux qui n'y croient pas. Dans l'unité qui existe entre ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, et que sur la terre nous avons à exercer notre prêtrise afin que ça soit tenu réel pour l'éternité au ciel. Et il en va de même pour le scellement des familles ici-bas. Et puis aussi, des gens de nos familles qui sont déjà décédés. Quand on pratique le baptême pour les morts, ça fait partie de ce plan du salut éternel. Ce que nous faisons sur la terre, c'est enregistré au ciel. Écoutez bien ça. vous découvrirez dans tout ce que je vous ai dit là qu'il y a des livres qui furent ouverts. Vous avez vous rappelé dans Apocalypse. Et un autre livre fut ouvert, c'était le livre de vie. Mais les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. N'est-ce pas ce qui est écrit? Par conséquent, les livres en question doivent être les livres qui contenaient les comptes rendus de leurs œuvres et ont trait aux registres qui sont tenus sur la terre. Vous me suivez? Et le livre qui était le livre de vie, c'est le registre qui est tenu dans les cieux par Dieu dès avant la fondation du monde, avec les noms de ceux qui lui appartiennent. Le principe étant précisément conforme à la doctrine qui vous est donnée ici au sanctuaire et par la révélation de ce que la Bible dit, afin que tout ce que vous enregistrez ici-bas soit enregistré dans les cieux. Or, écoutez bien, la nature de cette ordonnance consiste dans le pouvoir de la prêtrise par la révélation de Jésus-Christ, selon laquelle il est accordé que tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Ou je peux le dire autrement, pour prendre cela sous un autre angle, tout ce que vous enregistrerez sur la terre sera enregistré dans les cieux. Et aussi, on peut dire, et tout ce que vous n'enregistrerez pas sur la terre ne sera pas enregistré dans les cieux. Parce que c'est d'après des livres que vos morts seront jugés, selon leurs œuvres, qu'ils aient accompli les ordonnances eux-mêmes, personnellement, ou par l'intermédiaire de leurs agents, c'est-à-dire de vous, conformément à l'ordonnance que Dieu a préparée pour leur salut dès avant la fondation du monde, d'après des registres qui sont tenus concernant leur mort. Est-ce que vous me suivez là? Je sais que ce n'est pas courant. Sceller votre union, votre mariage pour l'éternité, ou vous faire baptiser à la place de vos morts, c'est ce que vous avez le pouvoir de faire sur la terre pour que cela soit réellement enregistré au ciel. Ce sont des actes légaux. Ensuite vient la fidélité ici-bas, fidélité à suivre Jésus dans tout ce qu'il veut, dans tout ce qu'il dit. Hein? Parce que lui, il a l'autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors, ces choses-là sont liées. Dieu aime la famille. C'est pourquoi le diable en ce moment, fait tout ce qu'il peut pour détruire la famille, la cellule familiale. Moi, je ne cherche pas à lutter contre le président machin ou le ministre truc qui dit, voilà, maintenant, n'importe qui peut se marier avec n'importe qui, et puis, voilà, les divorces, et ceci et cela, maintenant, voilà, la loi, c'est comme ça et c'est comme ça. Je ne cherche pas à lutter contre ça, je veux lutter pour quelque chose, pour la parole de Dieu, qui est pour la famille, et pour la famille éternelle, pas la famille, comme ils disent là, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais c'est désespérant. Moi, je ne veux pas être séparé de mon épouse, je l'aime vraiment, et je ne veux pas être séparé d'elle. Non, mais c'est quoi ça? C'est la religion qui nous a mis ça dans la tête, une religion d'apostat. Alors ici, nous allons construire un Dieu spécial que nous consacrerons pour les scellements des mariages éternels. Et au printemps, nous commencerons à pratiquer cette ordonnance qui a été oubliée et qui est maintenant rétablie au nom du Seigneur Jésus-Christ dans son Église qui prie et qui veille. J'ai dit ce que je devais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Réécoutez afin d'être bien sûr que vous avez compris ce que le Saint-Esprit veut vous dire. Amen. Merci Seigneur Jésus d'éclairer ceux qui doivent l'être. Que ton nom soit glorifié dans toute cette affaire. Merci Jésus pour ce fait que tu rétablis toutes ces choses dans ton Église. C'est une merveille. Merci mon Dieu. Amen. Amen.